BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Morris.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot sur BFM Business. Soyez les bienvenus au programme de cette émission Recruter des seniors, cette fois-ci avec le DRH de la semaine du cabinet de conseil Eurogroup Consulting qui lance un grand dispositif en faveur de l'emploi des plus de 50 ans. Dans cette émission, avec Jeanne Spicarolène, on répond aussi aux questions que vous nous envoyez.
Et oui, aujourd'hui, on appelle l'avocate Sixtine Gosselin pour répondre à la question d'un retraité qui veut retourner au travail. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr.
Comment reprendre le travail après un congé maternité? Ce sera l'objet de notre focus. Sans oublier, en fin d'émission, la carte blanche cette semaine de Yannick Mercieris qui se demande si on a suffisamment de vacances. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
Et on parle aujourd'hui de recrutement des seniors avec notre invité. Bonjour Antoine Dezalé-Joly.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes le DRH d'Eurogroup Consulting. Vous avez lancé l'an dernier un grand dispositif en faveur de l'emploi des seniors. On ne sait pas trop ce qu'on met toujours derrière. Des fois, c'est 55-50. Vous, c'est les plus de 45 ans, en gros. L'objectif, c'est de réussir à plus recruter, mieux recruter. Il faut que ça représente, à terme, 10% des consultants qui sont recrutés. Vous avez lancé ça l'année dernière. Est-ce qu'on y est? Au 10%.
Alors, là, on n'est pas encore au 10%. Ouais. On a lancé l'initiative. Effectivement, c'est le projet est là depuis un an. Concrètement, on a lancé l'initiative à partir de mai et les premiers recrutements sont arrivés en septembre et d'autres vont nous rejoindre. Donc, on n'est pas totalement au 10% de recrutement, mais on est dans les clous.
Donc là, on parle bien de recruter des seniors, pas de garder les seniors dans l'entreprise. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Vous, c'est vraiment chercher des talents, en fait, qui ont déjà un parcours professionnel, alors, pas forcément une expérience dans le conseil d'ailleurs, vous cherchez pas des consultants très expérimentés, c'est pas l'objectif, mais des personnes qui ont une valeur ajoutée.
Oui, parce que nous le projet c'est effectivement de proposer d'apprendre un nouveau métier, soit oui, pour les personnes éloignées de l'emploi, ce qui est le cas auquel sont confrontés les seniors sur le marché de l'emploi, en fait, hein, ça c'est une réalité, ou soit qui veulent donner un nouvel élan à leur carrière. Donc c'est proposer l'apprentissage d'un nouveau métier, le métier de consultant au sein de notre cabinet.
Et pourquoi? Ça part de quoi?
Ça part de plusieurs enjeux pour notre cabinet. Il y a un enjeu de diversité au sens large par rapport à deux constats. Les cabinets de conseil en organisation et le nôtre, Eurogroup Consulting, la moyenne d'âge, elle est de 33 ans. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des personnes plus âgées dans le cabinet, mais la moyenne d'âge est assez jeune. Et puis, un vivier de compétences largement inexploité en France avec les seniors. Et puis aussi un marché du travail tendu ces dernières années.
Mais alors, sur quelles compétences vous recrutez justement quand c'est une personne, un senior qui n'a pas d'expérience dans le conseil, qui se présente devant vous pour un entretien d'embauche? C'est quoi les critères qui vont faire que vous allez le sélectionner?
Alors, en fait, on s'est arrêté sur... on va pas aller chercher une compétence puisqu'on va leur apprendre le métier. Donc, les compétences qu'on va chercher, c'est surtout la motivation, la capacité à se mettre en situation de réapprentissage.
Et ça, on arrive à le mesurer dans un entretien?
Alors, on a mis en place un dispositif... en fait, nous, on est parti d'une feuille blanche. On a mobilisé nos équipes, c'est-à-dire tous ceux qui voulaient travailler sur le sujet chez nous. Et puis, on s'est rapproché des institutionnels et des associations pour savoir comment on pouvait faire pour sourcer et accompagner notre proposition d'embauche. Et donc, avec l'APEC, on a mis en place l'immersion professionnelle qui permet, sur une semaine, d'évaluer, eux comme nous, finalement, l'exercice du métier avec de la mise en situation et la participation en fait à la vie d'une mission de conseil.
Vous allez à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises où malheureusement on cherche encore beaucoup trop à se séparer des salariés les plus anciens.
Oui, tout à fait. Tous ceux qui sont effectivement éloignés de l'emploi, aujourd'hui, nous, on leur propose de rejoindre notre cabinet pour apprendre le métier, un métier qualifié et un métier où ils vont pouvoir acquérir de nouvelles compétences avec leur expérience, bien entendu.
Alors, c'est très louable, bien sûr. Est-ce que ça fonctionne maintenant Alors, pour Eurogroup Consulting, est-ce que vous êtes satisfait du résultat, même si on n'est pas encore au bout, puisque l'objectif, c'est 10% de consultants recrutés qui sont des seniors. Vous n'y êtes pas encore tout à fait. Mais est-ce que vous... Dans ce que vous voyez, ce qui est en train de se passer, vous avez envie d'atteindre ces 10%?
Oui, complètement. Là, on est lancé dans cette dynamique-là. On a eu une première immersion en mai, une dernière en octobre. On a eu trois premiers recrutés qui nous ont rejoints en septembre. Donc là, effectivement, le recul, ça mérite encore, pour eux comme pour nous, d'avoir plus de recul sur l'exercice de la pratique, mais ce qu'on voit pour l'instant, c'est positif par leur rapport d'expérience, de sérénité, tout ce qu'ils peuvent apporter finalement de leur expérience passée. Et puis on en a une qui nous rejoint aujourd'hui à l'issue de la deuxième immersion, et puis deux autres qui nous rejoindront en janvier, et on fera une autre semaine d'immersion dans le premier trimestre 2024.
Le message derrière aussi, c'est qu'on peut devenir consultant quand on a 60 ans.
Complètement, oui. Ouais. Parce que les premiers qui nous ont rejoints ont entre 56 et 60 ans.
Et les clients, vos clients, parce que vous travaillez bien sûr en proximité avec les directions d'entreprise, ça leur fait pas peur ?
Non, ça leur fait pas peur. Alors on les a, ils ont été aussi
concertés.
Enfin, pas concertés, mais en tout cas, ils ont participé puisque dans la semaine d'immersion, on met en situation sur mission ceux qui veulent nous rejoindre, les candidats qui veulent nous rejoindre sur une mission. Donc, ils sont amenés aussi à rencontrer les clients qu'on a prévenus au préalable et qui sont plutôt curieux et qui accueillent favorablement finalement des problématiques en plus auxquelles ils peuvent être confrontés aussi en fait.
Et l'intégration se fait comment ? Se fait bien par rapport dans la relation avec les salariés, les consultants très capés qui sont chez vous depuis plusieurs années. La relation, elle se fait comment ?
Bah, il y a un double enjeu effectivement pour les seniors, c'est se mettre en situation de réapprentissage, être confronté potentiellement à quelqu'un de plus jeune
qui va les encadrer,
et inversement aussi pour des plus jeunes qui vont être amenés à encadrer des personnes plus âgées. Donc ça nous a amené à avoir des réflexions sur la sensibilisation sur tous les sujets de diversité, la formation bien entendu, pour nos équipes qui étaient déjà présentes, et puis aussi pour les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent en tant que débutants.
Très intéressant en tout cas comme sujet de pouvoir parler de ça avec vous dans Happy Boulot. Antoine Dezallet-Joly, DRH d'Eurogroupe Consulting. Il nous reste une minute. Je vais vous donner, comme on le fait traditionnellement, la boîte du DRH dans laquelle je vous invite à piocher deux petits papiers, des phrases à compléter pour savoir un peu mieux quel DRH vous êtes. Allez-y, je vous laisse nous lire la première phrase.
Alors, dans ma boîte, la rémunération est un sujet transparent, puisque chez nous, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Enfin, tout le monde, les grilles sont parfaitement connues, il n'y a pas de discrimination entre les femmes et les hommes. Mm-hmm. On fonctionne par des grades, des strates, et donc ça, c'est parfaitement transparent.
Pour autant, on ne sait pas combien gagne le voisin.
Non, mais on le devine assez rapidement, puisqu'on sait qu'on est dans la même catégorie d'expérience et d'apprentissage du métier.
Ouais. Ça, c'est plutôt salué par les collaborateurs.
Oui, parce que de toute façon, c'est voilà, les grilles sont partagées. Donc.
Très bien. Allez, un dernier petit papier. Okay.
Dans ma boîte, je recherche des candidats qui sont motivés avant tout, parce que dans le cadre du parcours senior, c'est exactement ça qu'on va rechercher comme compétences. Mmh. Mais de manière générale, des gens qui ont envie d'apprendre un nouveau métier, en fait.
Et donc les soft skills aussi, avant tout, c'est là qu'on voit aussi la motivation des personnes qui veulent rejoindre l'entreprise.
Complètement, ouais, c'est clé. Que ce soit pour les débutants seniors ou les débutants plus jeunes.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec nous, Antoine Dezallet, joli DRH d'Eurogroupe Consulting. Merci d'avoir été avec nous tout de suite. Jeanne, on appelle notre expert pour les réponses à vos questions.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on le voit tout de suite, Sixtine Gosselin, avocate en droit du travail chez Factory Avocat. Pour répondre à cette question, Sixtine, je suis à la retraite et j'aimerais reprendre une activité professionnelle. Pourrais-je cumuler ma pension de retraite et mon nouveau salaire ?
Oui, je peux très bien être à la retraite, vouloir reprendre une activité professionnelle et même cumuler ma pension de retraite et mes nouveaux revenus d'activité. Ça a un nom, c'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Il y en a trois. Il faut 1. Avoir l'âge légal de départ à la retraite. 2. Avoir obtenu toutes ses retraites de base et complémentaires en France et à l'étranger. 3. Avoir une retraite au taux maximum, au taux plein, en ayant, par exemple, cotisé tous les trimestres nécessaires. Il y a donc deux options. Option 1, je remplis ces trois conditions. Je peux cumuler pleinement ma retraite et des nouveaux revenus d'activité. Option 2, je ne remplis pas ces trois conditions. Le cumul emploi-retraite reste possible, mais il est limité. D'abord, le total de ma pension de retraite et de mes nouveaux revenus ne doit pas dépasser un certain plafond. Et deuxièmement, attention, si je reprends une activité chez mon ancien employeur, il faudra que j'attende un délai de 6 mois après mon départ en retraite. Avant ce délai, si je reprends une activité chez mon ancien employeur, ma pension de retraite sera suspendue.
Sixtine Gosselin, avocate en droit du travail chez Factory Avocat. Continuez à nous écrire sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
Reprendre le travail après un congé maternité, c'est le sujet de notre focus aujourd'hui. Quels sont les problèmes que les femmes peuvent rencontrer à leur retour au bureau, quelles sont les solutions aussi mises en place par la direction d'entreprise. On en parle sans plus tarder avec nos deux invités qui nous ont rejoints. Tinuan Pham, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de ce livre, La reprise, aux éditions Payot, le tabou de la condition des femmes après le congé maternité. C'est de ça dont vous parlez dans La reprise. Donc, on va échanger là-dessus. Vous avez aussi un podcast du même nom dans lequel vous discutez, vous interviewez des personnes qui viennent aussi témoigner. Et puis, face à vous, avec nous, Élise Fabing, bienvenue.
Merci.
Avocate en droit du travail, fondatrice du cabinet Alchemiste Avocat, auteur du manuel contre le harcèlement au travail chez Hachette. Un deuxième ouvrage aussi en cours d'écriture en ce moment. Ça n'arrête pas, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses quand même à raconter sur ce sujet. Peut-être avec vous deux, le premier constat, c'est qu'il y a un problème, en tout cas dans les perceptions, quand on regarde les chiffres, on va les projeter, on va les commenter ensemble. Dans la perception, dans la réalité, mais il y a toujours un souci autour du congé maternité et du retour au travail.
Oui, il y a toujours un souci. En tout cas, c'est toujours une période d'inconfort, de transition, sur laquelle la société ne revient jamais, en donnant l'impression qu'il faut que pour les femmes, au retour de leur congé maternité, qu'elles fassent comme avant. Et ce comme avant est très problématique parce que ça donne énormément d'injonctions qui pèsent sur les épaules des femmes. Il faut absolument les faire connaître pour aussi soulager les femmes et pour aussi que la reprise soit un sujet qui ne soit pas seulement féminin, que la conciliation travail-famille soit pas seulement féminin, mais surtout un sujet sociétal, un sujet qui soit considéré globalement, puisque faire des enfants, ça se fait à deux.
Oui, bien sûr. Élise.
Alors, on a beaucoup de problèmes en contentieux, puisque moi j'accompagne énormément de femmes qui sont victimes de discrimination à la maternité. Ça commence en général pendant leur grossesse et au retour du congé maternité, il y a divers problèmes, mais particulièrement celui du poste équivalent. Puisque quand on part en congé maternité, alors effectivement tu l'as dit, on est dans une période de grande vulnérabilité personnelle mais aussi professionnelle parce que l'employeur n'est pas tenu de garder au chaud le poste de la salariée.
Ah oui.
Donc ça veut dire que quand elle revient, la salariée, la jeune maman, elle a droit à un poste équivalent. Et c'est là que le bas blesse.
Mais équivalent, c'est-à-dire dans la rémunération mais aussi dans les missions ?
Tout à fait, dans les missions, dans le scope, après c'est jurisprudentiel, les textes prévoient un poste équivalent, mais vous doutez bien que c'est pas si évident que ça à trouver. Et donc ce que j'aimerais dire aux femmes aujourd'hui, c'est que sur ces propositions de poste, il ne faut pas qu'elles se taisent, il faut qu'elles écrivent, il faut qu'elles expliquent pourquoi le poste n'est pas équivalent. Ça va être très important pour elles, pour la suite. Il faut absolument se protéger, parce que même si on a une protection relative contre le licenciement pendant 10 semaines au retour du congé maternité, sur la discrimination à la maternité, le nerf de la guerre, c'est la preuve, et ça commence vraiment à la reprise.
Il y a un travail de l'employeur quand même à faire aussi là-dedans, c'est à lui de se saisir du dossier, du sujet.
Ah oui, tout à fait. Il y a un travail d'anticipation, en fait, de l'employeur de préparer le retour de congé maternité de sa salariée. Après, dans les faits, entre la théorie et la pratique, il y a un gap immense, et quand on interroge les femmes, très peu voient leur manager préparer, anticiper sur quel poste elles vont arriver ou retourner, anticiper même un simple bonjour d'accueil. Ouais. Souvent, l'onboarding, le re-onboarding ne se fait pas. Donc, après des mois d'absence, beaucoup de femmes, en fait, sont confrontées à la découverte parfois d'un nouvel organigramme, d'une nouvelle entreprise, voire parfois rentrent, n'ont même pas de bureau, de chaise. Ça existe vraiment. Ce n'est pas du tout une légende urbaine. Moi, malheureusement, au travers des différentes interviews que j'ai faites pour mon livre ou pour mon podcast, à chaque fois, quasiment tout le temps, il y avait un exemple de discrimination, un exemple de mise à l'écart, un exemple de mauvais retour au travail. Et c'est, hélas, une réalité quotidienne.
Est-ce qu'il y a un profil type d'entreprise dans lesquelles ça se passe plus ? Est-ce que c'est les grands groupes, les start-up ? Est-ce que ça concerne tout le monde de la même manière ?
Ça concerne vraiment tout le monde de la même manière.
Oui. Public comme privé, grandes entreprises comme PME, c'est un problème, systémique.
Ça persiste ? C'est que le cadre légal n'est pas assez clair, n'est pas assez strict ?
Oui, je pense.
Ou qu'on contourne à chaque fois ?
Alors, je pense que le cadre légal n'est pas assez précis, effectivement. Et puis, il reste cette inégalité systémique qui est que c'est la femme qui porte l'enfant, que le congé paternité n'est que d'un mois, et c'est déjà un grand progrès, c'est récent. Et donc, les femmes culpabilisent, dans toutes celles qui viennent me voir au cabinet, elles culpabilisent d'être enceintes, de faire perdre de la productivité à leur entreprise. Et elles se taisent. Et puis, il y a cette problématique aussi au retour où elles ont cette injonction d'être aussi disponibles qu'avant, ce qui est vraiment pas évident. Et j'ai le souvenir d'une de mes clientes qui, le jour de son retour de congé mat, avait été convoquée à une réunion à 8h30 et une autre à 19h, le même jour.
Donc, le jour
de son retour de congé maternité. Voilà, et c'était un gros groupe qui...
C'est de la provocation, au limite.
C'est de la provocation, et c'est un gros groupe qui a pignon sur rue et qui promeut l'égalité femmes-hommes au travail à travers plein de belles campagnes de recrutement. Donc oui, ça existe.
Est-ce que c'est volontaire de la part des managers, des directions, ou est-ce que c'est aussi un manque de formation?
C'est les deux. Je pense qu'il y a du conscient, de l'inconscient. En fait, comme le disait Élise, c'est lié à une représentation plutôt négative des femmes devenues mères. Et c'est le tabou que j'énonce dans l'essai. C'est une représentation des femmes devenues mères comme si elles étaient, entre guillemets, des demi-salariées, comme si elles ne valaient plus l'importance qu'on accorde à des salariés classiques qu'il faudrait accompagner dans leur retour au travail ou même dans leur intégration au travail, dont il faudrait prendre conscience en matière de contraintes organisationnelles de famille.
Est-ce que le développement du congé paternité, quand même, qui existe de plus en plus aussi dans les entreprises, certaines entreprises vont même au-delà aujourd'hui du cadre légal pour justement faire respecter une égalité aussi dans ce sens-là, parce que les pères ont aussi une responsabilité vis-à-vis de l'encadrement et
le
développement, bien sûr, de leurs enfants. Est-ce que ça va pas ramener un petit peu d'équilibre?
Si, en tout cas, selon nous, parce qu'on partage cette conviction avec Élise, c'est une des solutions essentielles, effectivement, de véritablement donner la place aux pères de prendre leur part, c'est pas aider, mais vraiment de prendre leur part dans la gestion des tâches domestiques et parentales, pas juste parentales, de manière à rééquilibrer cette conciliation travail-famille qui aujourd'hui ne pèse que sur les épaules des femmes.
Élise Fabien, d'accord avec ça?
Absolument, absolument. Mais sur les entreprises, je pense aussi que parfois, c'est un manager caillou dans la chaussure, je les appelle comme ça. Mais là, on voit le vrai engagement des entreprises dans l'égalité femmes-hommes, c'est leur réaction face à ce type de discrimination. Et malheureusement, je suis souvent déçue dans mes dossiers.
Bon, on va essayer quand même de ramener du positif dans tout ça. Sur la perception aussi du travail par les femmes qui reviennent justement à l'issue de plusieurs semaines de congé maternité. Il faut aussi, à leur place, se dire « je ne vais pas retrouver le même poste que j'avais quand je vais revenir ». Il faut aussi être préparé à ça, parce que parfois on se dit « je vais revenir à mon bureau et tout sera comme avant ». Et la vérité, la réalité, ce que vous nous expliquez au début, c'est que non. Le poste est adapté parce que l'entreprise a continué de tourner avec quelqu'un qui a remplacé potentiellement. Il faut être prêt à travailler sur d'autres sujets, sur un autre rythme.
En fait, il faut être prêt à du changement. Parce qu'aujourd'hui, cette problématique du « on vous demande de revenir comme avant », elle pèse aussi sur les femmes, dans le sens où elles vont considérer que la situation va rester perdurer, alors que c'est une grosse période de changement, mais également de changement même psychologique, existentiel pour elles, parce qu'elles vont redéfinir leurs priorités.
Et donc, il faut en parler peut-être avec l'employeur avant de partir en congé maternité, de l'apprenant. Qu'est-ce que je fais quand je reviens?
Exactement, ça devrait être quelque chose ça doit être anticipé du côté de l'entreprise, parce que c'est une vraie source d'angoisse pour beaucoup de jeunes mères, et ça ne leur permet pas de vivre ce moment précieux pleinement, parce que elles sont tiraillées par ces injonctions contradictoires, s'occuper d'un enfant, avoir un emploi, et puis il faut travailler aussi sur l'éducation des jeunes femmes, leur dire que oui, on peut tout avoir, c'est possible. Il faut juste que la société avance un petit peu.
Vous qui êtes avocate, Élise Fabien, justement, quel conseil vous apportez à vos clientes? C'est quoi les atouts qu'on peut avoir pour ne pas se retrouver dans des situations difficiles comme celles qu'on a décrites?
C'est se protéger, et se protéger, c'est écrire et enregistrer. Parce qu'aujourd'hui, un enregistrement...
Il faut des traces.
Il faut des traces, il faut des preuves. Et une discrimination est toujours harcelante. Donc il faut vraiment laisser des traces, et notamment sur cette histoire de poste. J'ai des clientes qui ont été laissées sans poste pendant 3 ou 4 mois, mais elles n'avaient aucune trace écrite. Et en fait...
Ça va pas.
Non, parce qu'il y a une injonction au silence des femmes. Elles se disent aussi que si elles l'ouvrent, elles vont perdre leur job et se retrouver dans une situation de précarité économique qui va être difficile à concilier avec leur nouvelle maternité en plus. Donc il faut en parler, il faut alerter son employeur.
Merci d'avoir été avec nous. Tinu Anfam, auteur de la reprise aux éditions Payot, créatrice du podcast du même nom, et Élise Fabing, avocate en droit du travail, auteur du manuel contre le harcèlement au travail chez Hachette. Tout de suite, c'est l'heure de la carte blanche.
Happy Boulot, carte blanche.
Plus de 70% des Français estiment qu'ils n'ont pas assez de vraies vacances. Pourtant, on en a beaucoup, non ? Oui, les Français ont en moyenne 28 jours de congés payés par an. Selon une grande étude menée par Expedia, qui a interrogé les travailleurs du monde entier, les Français n'en prendraient donc que 23. Ce qui nous placerait juste derrière l'Allemagne, Hong Kong et le Japon. Bon, à l'autre bout de ce classement, sans surprise, c'est les Américains.
That's the American way.
Alors pourquoi on ne prend pas plus de congés puisqu'on en a autant ? Et bien pour ça, il y a deux raisons principales qui freinent les gens. La première, sans surprise, c'est l'argent. Et la deuxième, c'est le temps. Soit parce qu'on a trop de travail, soit tout simplement parce qu'on est mal organisé. Enfin, un dernier point important, on prend des jours off pour faire autre chose que d'être en vacances. Rendez-vous perso, rendez-vous médicaux ou même la gestion des enfants. En fait, c'est tous ces petits moments-là qui nous donnent l'impression de ne pas être assez en vacances. Donc, pour avoir une santé mentale, physique et une motivation au top, n'oubliez pas que pour avoir envie de revenir, il faut savoir partir.
Happy Boulot, le labo RH.
En 4 minutes aujourd'hui avec vous, Élodie Vinet, bienvenue.
Merci, bonjour.
Vous êtes vétérinaire, fondatrice de Help for Vet, un soutien donc à vos collègues, confrères vétérinaires, qui n'ont pas un quotidien toujours facile. L'Ordre national des vétérinaires a présenté une étude catastrophique, on peut le dire comme ça, sur la santé mentale dans votre profession. 2 sur 10 seraient des idées suicidaires selon cette étude, c'est 2 fois plus que les professionnels de santé. 1 vétérinaire sur 3 abandonne même son métier avant 40 ans. Il y a un vrai mal-être quand même dans votre profession, hein, dont on parle jamais.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose dont on commence à parler un petit peu de plus en plus et qui est lié à différents facteurs, que ce soit la charge de travail, charge mentale et autres, mais aussi en grande partie lié à la peur de l'erreur, qui est le premier facteur lié aux idéations suicidaires dans la profession.
Oui, donc ça va quand même très très loin. Pourquoi autant de mal-être ? On parle de difficultés psychologiques, de charges de travail très importantes. C'est ça le premier facteur ?
Ça, c'est le facteur a priori qui est davantage lié au risque de burn-out et d'épuisement émotionnel. La peur de l'erreur est quant à elle plutôt lié c'est le facteur le plus lié au risque d'idéation suicidaire. Donc c'est ces deux paramètres-là. Après, il y a d'autres choses, le manque de reconnaissance, les incivilités grandissantes aussi, qui font aussi partie du problème. Donc c'est quelque chose d'assez multifactoriel.
Ouais, ça fait beaucoup de choses effectivement, et on imagine que c'est lourd à porter, surtout que c'est des métiers aussi où on n'a pas forcément 15 collègues autour de soi pour pouvoir en parler. On est souvent seul aussi dans cette profession.
Alors ça dépend des structures. Ouais. C'est vrai qu'il y a des structures avec des vétérinaires qui travaillent seuls, des structures de plus grande taille. En tout cas, ce qui est assez fréquent, c'est d'exercer seul, notamment la nuit en garde. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de créer une solution pour essayer d'aider ces vétérinaires qui peuvent être face à des cas complexes et à se sentir en difficulté.
Parlez-nous de votre solution justement, Help for Vet. En quoi elle va aider les professionnels les vétérinaires?
Donc Help for Vet, c'est une solution de soutien et d'accompagnement qui est principalement dédiée aux jeunes vétérinaires, donc aux vétérinaires qui débutent dans le domaine des urgences et soins intensifs, et qui se développe autour de 2 grands axes, à savoir la télé-expertise. Donc c'est du conseil d'un vétérinaire expert à un vétérinaire qui est moins capé dans cette discipline.
Donc ça fonctionne, c'est un abonnement, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est un abonnement mensuel avec aussi la possibilité de demandes vraiment ponctuelles. En cas de besoin. Mais le but, c'est réellement de proposer un accompagnement à ces jeunes vétérinaires qui sortent d'école et qui font leur premier pas en clinique, et en particulier dans un domaine un peu épineux que sont les urgences, qui doivent souvent affronter seuls.
Donc de l'expertise, du coaching pour gérer ces urgences. Est-ce que ça produit des résultats? Est-ce que vous avez des manières, vous, de mesurer tout ça?
Alors les manières de le mesurer, c'est principalement les retours qu'on a de nos clients qui sont plutôt positifs et encourageants, avec des jeunes vétos qui sont contents d'avoir accès à ce genre de solution.
Ils ont quel âge en moyenne ?
Les jeunes vétérinaires, du coup, c'est aux alentours de 27-28 ans en sortie d'école.
C'est jeune. C'est jeune et effectivement, donc ils peuvent utiliser votre solution pour avoir un conseil, pour être rassurés aussi sur, j'imagine, leur diagnostic, sur le traitement qu'ils prévoient de faire.
Oui, le but c'est vraiment qu'il y ait une approche multiple, que ce soit un soutien purement technique, médical, donc en effet pour aider au diagnostic, à la prise en charge, à la compréhension du cas, et pouvoir mieux prendre en charge du coup ces animaux-là, et aussi un soutien plus moral. Pour les cas où, humainement, ça, il peut y avoir des situations difficiles à vivre aussi.
Comment on fait appel à vous ? On va sur votre site internet, il y a un numéro de téléphone ?
Oui, c'est ça, c'est un site internet et on peut demander l'accès directement à la plateforme ou alors par un abonnement.
Et combien ça coûte ? Il y a différentes formules ?
Oui, il y a différentes formules en fonction du coup de l'intensité d'utilisation, avec des tarifs qui commencent autour de 18 à 20 euros la demande d'avis, avec du coup un vétérinaire expert qui est accessible quasi instantanément, qui répond au bout de 2 minutes à toute heure de la nuit.
Très bien. C'est vrai qu'on a toujours ce même constat, que ce sont souvent les professionnels du soin qui ont plus de mal à parler de leurs difficultés, de leur mal-être, puisque ce sont ceux qui sont censés être les plus à même de pouvoir y répondre. Mais en réalité, on a tous besoin de soutien. Et ça, c'est un volet RH aussi important du côté des vétérinaires. Donc aujourd'hui, dans Happy Boulot avec vous, Élodie Vinet. Merci beaucoup d'être venue nous présenter cette solution. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Help for Vet. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission, bien sûr, comme chaque semaine, en replay, en podcast dès à présent. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, soyez heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.